Vendredi 30 juin, il est 16h, une autre très belle journée dans la région de Victoria. Bonne fête du Canada, avec quelques heures d'avance. Nous avons un nouveau premier ministre en Colombie-Britannique. Un nouveau parti est au pouvoir après 16 ans de règne libéral. Il en sera longuement question dans la seconde portion de l'émission avec notre analyste politique Teal Phelps Bondaroff. Bienvenue à tous dans cette édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien. À l'antenne du 107.9 FM. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne au cours de la prochaine heure. On va entamer l'émission dans 15 secondes avec la revue de presse internationale. Bonne émission à tous! Tout de suite dans le journal Le Monde, un article sur la situation politique en Grande-Bretagne à la tête d'une majorité instable et étriquée. Theresa May doit négocier pour gouverner. La première ministre britannique a obtenu de justesse la confiance des députés britanniques, rapporte le journal Le Monde sous la plume de Philippe Bernard. Le nouveau gouvernement de Theresa May a passé de justesse la première épreuve parlementaire. Les amendements de l'opposition travailliste destinés à le renverser jeudi 29 juin lors des votes aux communes sur le Queen's Speech, le programme législatif du gouvernement énoncé par la reine le 21 juin, à savoir le discours du trône. Ces amendements donc ont été repoussés par la Chambre à raison de 323 voix contre 309. Les 10 députés du Parti unioniste démocrate, le DUP d'Irlande du Nord, ont rempli leur tâche. Trois semaines après les élections législatives où la première ministre a perdu la majorité, ce petit parti d'Irlande du Nord a fourni à la première ministre l'appoint en voix qui lui manque désormais, mais le prix à payer paraît de plus en plus élevé, rapporte le journal Le Monde. Toujours en Grande-Bretagne, cette fois dans le fil de l'agence Reuters, trois députés travaillistes limogés pour avoir défié le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn. Le chef de l'opposition travailliste britannique Jeremy Corbyn a limogé vendredi trois députés membres de son cabinet fantôme qui l'avaient défié la veille en ne suivant pas les consignes du vote du Labour à la Chambre des communes. La crise larvée s'est cristallisée lors du vote sur un amendement déposé par un élu travailliste qui proposait le maintien du Royaume-Uni dans le marché unique de l'Union européenne. Cette proposition, qui va à l'encontre de la position officielle du Parti travailliste, favorable à l'abandon du marché unique, a été rejetée par 322 voix contre 101. La majorité des députés travaillistes ont suivi la consigne de vote du parti en s'abstenant, mais 49 d'entre eux ont voté en faveur de l'amendement pour contester le leadership de leur chef, Jeremy Corbyn. De l'autre côté de la Manche, toujours en Europe, mort de Simone Veil, icône de la lutte pour les droits des femmes en France, l'ancienne déportée à Auschwitz, ancienne ministre de la Santé et femme politique, est décédée à l'âge de 89 ans, nous informe le journal Le Monde. Et bien sûr, cette nouvelle se retrouve dans tous les médias français. Simone Veil est morte à l'âge de 89 ans, a fait savoir à sa famille vendredi 30 juin. L'ancienne déportée des camps nazis incarne à sa manière les trois grands moments de l'histoire du 20e siècle, la Shoah, l'émancipation des femmes et l'espérance européenne. Au cours de sa vie, poursuit cet article du Monde, Simone Veil a en effet épousé, parfois bien malgré elle, les tourments d'un siècle fait de grandes désespérances mais aussi de beaux espoirs. Elle fait partie des rares juifs français ayant survécu à la déportation à Auschwitz. Elle symbolise la conquête du droit à l'avortement et elle est l'une des figures de la construction européenne. Vous trouverez des articles sur Simone Veil partout dans tous les médias français aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans Ouest-France, on se demande si Simone Veil sera la cinquième femme à entrer au Panthéon. Les réactions foisonnent depuis l'annonce de la disparition de Simone Veil, peut-on lire dans Ouest-France. Beaucoup demandent déjà son entrée au Panthéon français comme un hommage ultime à cette icône dont le parcours est salué unanimement. Des pétitions circulent déjà sur Internet, mais seul le président de la République, rappelle cet article de Ouest-France, peut décider. En Allemagne maintenant, l'Allemagne réalise le mariage pour tous, l'égalisation du mariage pour les homosexuels, c'est maintenant chose faite. À la Bundestag, le Parlement allemand a adopté le mariage gay vendredi 30 juin avec les voix de l'opposition. Le Parti social-démocrate allemand, le SPD, a imposé le texte à son partenaire de coalition, l'Union chrétienne démocrate, le CDU, qui bloquait le texte depuis des années. Le texte a été approuvé par une majorité de 393 élus, constitués des députés des trois partis de gauche représentés à la chambre basse du Parlement allemand, rejoints par une partie seulement des députés de la famille conservatrice de la chancelière Angela Merkel. Et d'ailleurs, Angela Merkel, dans la presse allemande, a révélé qu'elle avait voté contre le mariage gay lors de ce vote historique en Allemagne. Donc, vous trouverez cette nouvelle dans à peu près tous les médias européens et c'est une nouvelle qui a fait grand bruit, bien sûr, en Europe et partout dans le monde. L'Allemagne légalise le mariage pour tous. On revient en France, cette fois dans les colonnes du journal suisse Le Temps, à l'adresse letemps.ch. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé cette semaine dans le débrief, le génocide rwandais survenu dans les années 90, un génocide qui connaît encore des retombées, des rebondissements, des révélations, plus de 20 ans plus tard. Donc cet article qui paraît dans le média suisse Le Temps s'intitule « En France, la vérité sur le génocide rwandais est toujours secret d'État ». Des révélations sur des livraisons d'armes françaises aux Hutus génocidaires relancent les accusations de complicité de la France et de la banque BNP Paribas dans les crimes contre l'humanité commis au Rwanda. Une nouvelle plainte pourrait relancer des investigations à la banque UBP de Genève, précise le journal suisse Le Temps. Si le nouveau président français Emmanuel Macron veut vraiment rompre avec ses prédécesseurs et avec les pratiques coupables de la France-Afrique, comme on l'appelle, une décision serait des plus symboliques, la déclassification complète des archives de l'Élysée relatives au génocide commis au Rwanda contre les Tutsis entre le 7 avril et la fin juillet de l'année 1994, écrit le journal Le Temps. Il faut en finir avec ces révélations par petits bouts. Beaucoup d'officiers de l'armée française restent traumatisés par ce qu'ils ont fait durant ces mois-là au Rwanda, lors de l'intervention appelée Turquoise, une intervention qui avait le soutien de l'ONU, une intervention supposée humanitaire, explique un spécialiste interviewé par le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, qui est l'auteur des dernières révélations publiées dans la revue mensuelle 21. Donc ça, c'est un numéro de 21 qui va faire grand bruit, un dossier spécial avec article de fond sur le génocide rwandais et l'implication de la France dans ces crimes contre l'humanité perpétrés dans les années 90. Donc vous trouverez cet article sur le portail du journal Le Temps, un journal suisse. C'est intitulé « En France, la vérité sur le génocide rwandais est toujours secret d'État ». Retour dans les colonnes du journal Le Monde. La Russie suspend sa participation au budget du Conseil de l'Europe. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les 18 députés russes de l'Assemblée parlementaire sont privés de droit de vote. La Russie a annoncé ce vendredi 30 juin qu'elle suspendait sa participation au budget du Conseil de l'Europe. Cet épisode est une nouvelle illustration des tensions entre Moscou et l'institution pan-européenne, notamment chargée des questions de droits humains. Dans une conversation téléphonique, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a prévenu le président du Conseil de l'Europe que la Russie ne contribuera pas au budget du Conseil de l'Europe jusqu'à la restauration totale des droits de la délégation russe dans l'institution, selon un communiqué de la diplomatie russe. Dans un autre communiqué, Moscou a dénoncé la dégradation de la situation au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et la campagne de persécution frénétique visant les députés d'autres pays cherchant à normaliser leurs relations avec la Russie. Les 18 députés russes de ce Conseil de l'Europe, qui siègent à Strasbourg, précise cet article du journal Le Monde, sont privés de droit de vote depuis avril 2014, une des sanctions infligées à la Russie en réaction à l'annexion de la péninsule ukrainienne de la Crimée en 2014. On a une tribune d'Amnesty International sur la crise des migrants et sur la tragédie des migrants morts en mer de Méditerranée. C'est une tribune intitulée « Le cynisme de l'Europe ». Les dirigeants européens continuent de déplorer le nombre toujours plus grand de personnes qui meurent dans la Méditerranée, écrit l'Amnesty International dans cette tribune. Mais en fait, ils ne font rien pour sauver des vies. Au contraire, ils les mettent encore plus en danger. Ils ne renforcent pas les opérations de sauvetage, mais agissent pour que les réfugiés et les migrants soient bloqués dans des pays qui se moquent de leurs droits et de leur sécurité. Plus de 2000 personnes sont mortes en mer depuis le début de l'année 2017 alors qu'elles cherchaient un abri en Europe, rappelle Amnesty International. Dans cette tribune, l'Union européenne s'obstine à renforcer des contrôles frontaliers et la multiplication des retours dans les pays d'origine. L'Union européenne ne cherche pas à offrir aux réfugiés et aux migrants la possibilité de se rendre en Europe en toute sécurité. Actuellement, poursuivent les auteurs de cette tribune, la méthode qui a les faveurs des dirigeants européens est l'externalisation, comme on l'appelle. Elle consiste à agir par tous les moyens pour que les pays d'où viennent les réfugiés et les migrants, ou ceux par lesquels ils transitent, renforcent les contrôles des frontières. C'est un transfert de responsabilité uniquement fondé sur le souci d'empêcher les personnes d'approcher de l'Europe, et non pas sur la nécessité d'offrir une protection effective à des êtres humains. Les États de l'Union européenne ne se gênent pas pour promettre des aides diverses en contrepartie du renforcement des contrôles aux frontières de ces pays. Dans certains cas, ils interviennent directement dans ces pays par le biais de formations ou la fourniture de matériel pour rendre plus efficaces les contrôles. Et cette tribune d'Amnesty International souligne que l'accord intervenu entre l'Union européenne et la Libye est le symbole d'une coopération sordide. Les dirigeants européens ont renforcé la coopération avec les gardes-côtes libyens en les formant et en leur fournissant des navires. Ainsi, l'Europe fournit aux gardes-côtes libyens le pouvoir d'intercepter des réfugiés et des migrants en mer et de les renvoyer en Libye. Cette démarche, écrit Amnesty International, serait valable si la situation en Libye ne ressemblait pas à un enfer pour les réfugiés et les migrants. Alors, on sait évidemment que la Libye actuellement est une zone de non-droit avec des exactions, des troubles, beaucoup d'instabilité, des gens qui sont vendus comme de la marchandise. On parlait récemment dans le débrief d'un portrait qu'avait consacré le journal Le Monde à un migrant en particulier, un migrant qui avait été vendu plusieurs fois comme esclave en Libye justement. Alors vous trouverez cette tribune d'Amnesty International sur le web, sur le portail d'Amnesty International. Ça s'intitule « Mort en mer, le cynisme de l'Europe ». Extrême-Orient maintenant, cette fois dans les colonnes du média RFI.fr. Fukushima, trois anciens dirigeants de TEPCO dans le box des accusés. Au Japon, un peu plus de 6 ans après la catastrophe de Fukushima, le premier procès au pénal consécutif à la catastrophe s'est ouvert ce vendredi à Tokyo. Ce sont des citoyens japonais qui ont porté plainte. Sur le banc des accusés, trois anciens dirigeants de TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire dévastée par un gigantesque tsunami en 2011. L'ex-président du conseil d'administration de TEPCO et deux anciens vice-présidents de l'entreprise sont poursuivis pour négligence. Et les trois anciens dirigeants de TEPCO, poursuit cet article de RFI, plaident non coupables dans la mort de 44 malades âgés évacués d'un hôpital proche de la centrale en pleine nuit dans des conditions horribles. Les trois dirigeants sont encore accusés de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires qui auraient permis d'éviter la destruction de trois réacteurs nucléaires. Destruction causée bien sûr par le tsunami de 2011. Il était impossible de prévoir un tel accident, ont affirmé les trois dirigeants en manière de défense. Trois rapports d'enquête ont pourtant établi, indique cet article de RFI, que l'accident de Fukushima a été causé par l'homme. Et c'est avec cette nouvelle qui nous arrivait de l'Extrême-Orient que se referme cette revue de presse internationale du 30 juin. Restez avec nous à l'antenne du 107.9 FM, votre fréquence communautaire francophone locale. Nous allons enchaîner dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. À tout de suite. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief en ce 30 juin. Nous allons entamer maintenant la revue de presse canadienne en se déplaçant tout de suite dans le portail de Radio-Canada, section autochtone. Et c'est un article qui apporte un petit peu, si vous voulez, une note discordante dans le concert d'acclamation et de réjouissance entourant le 150e anniversaire du Canada. C'est intitulé d'ailleurs « Non, ils ne fêteront pas le 150e anniversaire du Canada ». Et ça concerne bien sûr les réactions de certains autochtones, de certains groupes autochtones autour de cette célébration du 150e anniversaire. À l'approche de la fête nationale du Canada, qui sera cette année marquée par le 150e anniversaire de la Confédération, les autochtones du Canada rappellent qu'ils n'ont pas le cœur à la fête, peut-on lire sur le portail de Radio-Canada. Pour de nombreux membres des Premières Nations, ces célébrations censées souligner les débuts de l'aventure canadienne représente avant tout un symbole de l'effacement historique de la présence autochtone sur le territoire. Cet effacement, rappelle-t-il, s'est manifesté au fil des siècles à travers les tentatives d'assimilation qu'ont été les rafles et l'implantation des pensionnats autochtones, mais aussi par l'entremise de la loi sur les Indiens, instaurée en 1876. « Vous célébrez la colonisation », a lancé Réal Carrière, assistant professeur à l'Université de Saskatchewan. Pour le 150e anniversaire de la Confédération, a dit ce professeur, si vous considérez que le commencement de ce pays remonte à 150 ans, si c'est ce qui est dans votre cœur, si c'est ce que vous croyez, vous célébrez alors la colonisation, a-t-il déclaré. L'assistant professeur est déçu de constater que les célébrations passent complètement sous silence l'histoire des peuples autochtones, une histoire qui a pourtant débuté plusieurs milliers d'années avant l'arrivée des premiers colons. Réal Carrière rappelle que ces derniers sont arrivés avec la certitude que leur société, leurs idéologies et leur religion étaient supérieures à celles des premiers habitants, ce qui justifiait la dépossession territoriale et culturelle qui s'en est suivie. C'est pourquoi dans son village natal de Cumberland House, un ancien comptoir à fourrure de la Saskatchewan où vivent de nombreux Cris et Métis, on choisit chaque année de commémorer le 1er juillet en célébrant le savoir-faire autochtone. La journée de samedi ne devrait pas faire exception, précise cet article de Radio-Canada. Et l'on trouve aussi dans cet article une interview de Shane Henry, un autre militant de la cause autochtone, un membre des Premières Nations. Shane Henry, peut-on lire, a déjà participé aux célébrations de la fête du Canada plus jeune, mais aujourd'hui, à l'approche de la grande fête du 150e anniversaire, il ne se sent plus habité par la fibre patriotique. Mettre des drapeaux partout sur ma peau, mettre des autocollants, sauter de joie en vantant les mérites de notre grand pays, cette portion des célébrations n'est plus compatible avec la personne que je suis, explique le jeune homme dans cet article, un jeune homme qui a des origines métisses, cris et ukrainiennes. C'est en s'impliquant auprès d'organismes communautaires, mais aussi en travaillant pour le gouvernement, que Shane Henry a constaté que la genèse narrative du Canada écarte largement la perspective autochtone. Shane Henry affirme d'ailleurs avoir perdu des amis en remettant en cause leur conception de l'histoire et de la création du Canada. Alors, vous trouverez cet article qui se poursuit sur plusieurs paragraphes dans le portail de Radio-Canada, dans la section attribuée aux peuples autochtones. On a également une intervention d'Erika Violette Lee, une jeune femme autochtone de Saskatoon, dans cet article. Elle affirme être incapable de s'identifier à l'idée du Canada. Elle profitera donc de la journée du 1er juillet pour parler des enjeux dans sa communauté, comme la construction d'une épicerie, mais aussi l'accès à de meilleurs soins de santé et à l'éducation. Voilà, c'est sur le portail de Radio-Canada, section des peuples autochtones. Et la presse canadienne n'ignore pas non plus cette récente montée des revendications et des interventions d'Autochtones sur la place publique autour de l'anniversaire du 150e anniversaire de la Confédération. Il y avait cette manifestation sur la colline parlementaire cette semaine à Ottawa. Nous en avons parlé dans le débrief et la journaliste Mia Rabin Robson dans la presse canadienne écrit un article intitulé « 150e anniversaire du Canada, des Autochtones n'ont pas le cœur à la fête ». Et ça reprend en substance un petit peu l'article que je viens de vous lire avec d'autres intervenants cette fois, plutôt des intervenants qui étaient présents, eux, sur la colline parlementaire cette semaine, des intervenants qui ont manifesté et qui ont tenté d'ériger un tipi qui a été délocalisé et remonté un peu plus loin à l'écart de la colline parlementaire. Et je vais tenter de retrouver les commentaires du premier ministre Justin Trudeau en réaction à ces manifestations. C'est dans le fil de la presse canadienne, je le disais. Selon le premier ministre Justin Trudeau, les Canadiens doivent comprendre que le 150e anniversaire de la Fédération canadienne ne sera pas souligné de la même façon par tout le monde. Nous reconnaissons que nous n'avons pas été à la hauteur face aux peuples autochtones au cours des décennies, des générations, en fait, des siècles passés, a estimé le premier ministre. Environnement maintenant, pesticides, de nouvelles études confirment la nocivité des néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles, portent bien leur nom. Deux nouvelles études en Europe et au Canada, publiées jeudi dans la revue de référence Science, le confirment. Ce sont les expériences les plus étendues menées à ce jour dans la nature et elles apportent des arguments de taille aux détracteurs des néonicotinoïdes. Jusqu'à présent, les industriels affirmaient que les études menées dans les laboratoires n'étaient pas recevables parce que les fortes doses de néonicotinoïdes auxquelles les abeilles étaient alors exposées ne reflétaient pas la réalité dans les champs. Or, cette fois-ci, les chercheurs ont bien observé les abeilles dans les champs où les concentrations de ces insecticides sont plus faibles. Leur conclusion, l'impact est malgré tout néfaste pour les abeilles. Des colonies affaiblies, des abeilles mortes prématurément, c'est le constat des chercheurs au Canada. En Europe, les scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Lors d'une expérience sur 3000 hectares au Royaume-Uni, en Allemagne et en Hongrie, les chercheurs ont observé que les abeilles exposées avaient du mal à se reproduire. À certains endroits, la population des ruches avait diminué de 24% durant l'hiver. À d'autres, le taux de survie a été un peu plus élevé parce que les abeilles avaient aussi des fleurs sauvages à leur disposition. Ces résultats sont d'autant plus crédibles que les études ont été financées par les industriels eux-mêmes, à savoir les groupes Bayer et Syngenta. Alors vraiment une nouvelle très importante en environnement et les études proviennent justement du Canada et de l'Europe. Je rappelle le titre, pesticides, de nouvelles études confirment la nocivité des néonicotinoïdes. On reste dans le créneau environnemental, si vous le voulez bien. Le déclin du saumon chinook nuit à la natalité des bébés épaulards. C'est un article signé dans le portail de Radio-Canada International, rcinet.ca, sous la plume de Maryse Jobin. Sur la côte ouest du Canada et des États-Unis, écrit-elle, les épaulards du Pacifique manquent de nourriture car le saumon chinook est en déclin. Lorsqu'elles sont en gestation, les femelles épaulards ne peuvent se nourrir adéquatement. Ainsi, cela nuit fortement au taux de natalité. C'est ce qui ressort des données d'une étude de l'Université de Washington, faite à partir d'excréments de cette espèce au large de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington. Les chercheurs ont constaté, sur une période de 7 ans, que plus des 2/3 des femelles ne menaient pas leur bébé épaulard à terme par manque de nourriture. Le saumon chinook est l'aliment principal de ce mammifère marin, précise cet article, qu'on retrouve dans le portail rcinet.ca. Immobilier, vous savez, l'immobilier est en surchauffe à Vancouver. Ça a été un petit peu tempéré suite à des mesures prises l'année dernière. C'est la même chose du côté de Toronto, en Ontario. Je vous lis quelques lignes d'une note écrite dans le journal Les Affaires à l'adresse lesaffaires.com. Immobilier, alerte rouge à Toronto. C'est par le blogueur Mathieu Charret. Un rapport de la RBC tire la sonnette d'alarme quant au secteur immobilier torontois. La ville reine s'approche dangereusement de Vancouver pour devenir le marché le plus inabordable du Canada. L'agrégat des mesures d'accessibilité pour la grande région de Toronto s'est détérioré pour atteindre un niveau jamais vu, souligne le document produit par la RBC. Alors que l'accessibilité s'est améliorée à Vancouver, elle s'est évaporée à un rythme affolant à Toronto. De fait, Dans la métropole ontarienne, la moyenne des revenus des ménages consacrés à la propriété a augmenté de 2,7% au premier trimestre de 2017 pour atteindre 72%, un pourcentage que RBC juge stratosphérique. À Vancouver, le taux est toujours plus élevé à 79,7%, mais il a diminué de 1,2% au premier trimestre de 2017. Alors voilà, la crise immobilière qui se manifeste également dans l'est du pays du côté de la métropole torontoise. Et je vais vous citer quelques lignes en terminant cette revue de presse canadienne d'une tribune qui paraît dans le journal Le Devoir. C'est une tribune qui concerne justement l'accès au logement et ça s'intitule « Contrôle des loyers, suivre le modèle ontarien ». C'est une tribune signée par des professeurs de l'UQAM au Québec. Il y a également un professeur de l'Université Concordia dans les signataires. On a aussi la signature de Maxime Roy-Allard, porte-parole du regroupement des comités de logement et associations de location. Alors, vous allez voir, ça peut s'appliquer aux villes où l'accès au loyer est difficile, qu'il s'agisse de Toronto, Montréal ou Vancouver. L'Ontario adoptait récemment des mesures pour contrer la spéculation immobilière, écrivent les auteurs de cette tribune. Parmi celles-ci, une taxe de 15% aux investisseurs étrangers, la possibilité pour les villes de taxer les logements vacants, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans pour favoriser la construction d'immeubles locatifs, mais surtout un contrôle des loyers resserré pour protéger les locataires. En Ontario, avec le projet de loi 124, les hausses de loyers ne pourront excéder l'indice des prix à la consommation, soit 1,5% pour 2017 et 1,8% pour 2018, ce qui préviendra ainsi les hausses abusives de loyers allant parfois jusqu'à 50%, voire 100%. Précédemment, poursuivent les auteurs de cette tribune, seuls les logements construits avant 1991 étaient assujettis à ce contrôle. Cette exception voulait encourager la construction de nouveaux logements locatifs, ce qui n'a que très peu fonctionné. C'est une tribune fort intéressante. Elle est signée par plusieurs auteurs. Ça s'intitule « Contrôle des loyers, suivre le modèle ontarien » et le gouvernement ici en Colombie-Britannique serait bien inspiré justement d'adopter quelques-unes de ces mesures. On peut rappeler lesquelles mesures l'Ontario a adoptées, à savoir une taxe de 15% aux investisseurs étrangers. Ça, c'est déjà en place, mais seulement dans la région de Vancouver. La possibilité pour les villes de taxer les logements vacants. Un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans pour favoriser la construction d'immeubles locatifs. Et surtout, un contrôle des loyers resserré. Cette tribune est instructive, je vous la recommande. C'est dans le journal Le Devoir, signé par un collectif d'auteurs, notamment par des professeurs de l'UQAM et de l'Université Concordia. Ici se clôt la revue de presse nationale pour le 30 juin. Le débrief, votre rendez-vous info, va se poursuivre dans quelques instants avec la rubrique francophone du jour. Restez à l'écoute. La nouvelle francophone du jour a été repérée dans un média qui s'adresse aux expatriés français vivant un peu partout dans le monde à l'adresse lepetitjournal.com, le média des Français et francophones à l'étranger. Et cet article peut se lire sous la manchette « La France ne se perçoit pas comme francophone ». Deux spécialistes de la francophonie, peut-on lire, professionnels du français langue étrangère, Marie-Laure Poletti et Roger Pillion publie « Et le monde parlera français ». C'est le titre d'un nouvel ouvrage dans lequel il se penche sur les questions de l'avenir du français comme langue de communication internationale, mais aussi sur le rôle à jouer par la France pour diffuser et développer sa langue à travers le monde. Dans un monde toujours plus globalisé, peut-on lire dans cet article, il est aisé de constater à quel point la langue anglaise semble avoir pris le pas sur toutes les autres. Son hégémonie linguistique est sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Mais cette langue anglaise pourrait avoir atteint ses limites. Alors que Donald Trump semble hérisser beaucoup de monde, on est à la recherche de contre-pouvoirs, peut-on lire dans cet ouvrage intitulé « Et le monde parlera français ». Le moment serait donc propice au développement de nombreuses langues, certains prévoyant même le déclin de l'anglais dans un futur proche. Alors cet article se demande s'il y a un désintérêt pour la francophonie de la part de la France, alors que les élites sociales semblent se désintéresser de la question francophone en France et que les concitoyens français semblent eux aussi entretenir une attitude plutôt ambiguë à l'égard de la francophonie. Nombreux sont ceux qui sont tentés de baisser les bras face à la puissante langue anglaise, certains n'hésitant d'ailleurs pas à affirmer que la langue française est un frein à l'attractivité de la France. On remarque dans le même temps que les subventions françaises à la francophonie n'ont pas cessé de baisser ces dernières années. C'est donc un cri d'alarme que poussent les deux auteurs de cet ouvrage mentionné un petit peu plus tôt, « Et le monde parlera français », un ouvrage signé par Marie-Laure Poletti et Roger Pillion. Alors, est-ce que la France se perçoit comme francophone? Fait-elle suffisamment pour la francophonie? On a vu dernièrement qu'aucun responsable n'avait encore été nommé par le gouvernement d'Édouard Philippe au poste de secrétaire à la francophonie dans le gouvernement français. Il y a une certaine négligence là qui semble se déclarer en France quant à la francophonie mondiale. Et cet article nourrit le débat. Vous le trouverez dans le portail du Petit Journal à l'adresse lepetitjournal.com. Le Petit Journal qui est un média qui s'adresse aux expatriés français vivant partout dans le monde et aux francophones disséminés sur la planète. J'ai aussi repéré pour vous une autre nouvelle à thématique francophone, cette fois dans le fil de la presse canadienne. Ça concerne le CRTC, cet organisme qui est chargé de régir les diffusions radio et télé au Canada. C'est un organisme gouvernemental qui se penche notamment sur des questions de propriété des médias, mais aussi de programmation, qui décrète des taux, par exemple, de contenu canadien que les diffuseurs doivent respecter. Donc c'est un organisme vraiment crucial dans le paysage médiatique canadien. Et on trouve justement, à propos du CRTC, une nouvelle dans le fil de la presse canadienne sous la plume de Stéphanie Marin. Production en français, Québec demande au CRTC de revoir ses décisions. Le gouvernement québécois a officiellement demandé au gouvernement fédéral de réviser certaines décisions rendues par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Décision qui nuirait, selon Québec, aux productions télé originales en français. Ces décisions rendue le 15 mai dernier portait sur le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété de langue française. Ces décisions ont pour effet d'abolir certaines conditions en matière de programmation originale canadienne en français, précise cet article de la presse canadienne, et aussi en investissement dans les séries télé, a dénoncé le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Luc Fortin, qui est également ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française. La chaîne spécialisée Série Plus est notamment visée par ces décisions du régulateur fédéral, le CRTC autrement dit. Le ministre Fortin, peut-on lire, veut donc que le CRTC impose à ses groupes de diffusion des exigences en matière de dépenses pour les émissions originales de langue française, ainsi qu'un mécanisme de financement pour soutenir la production d'émissions musicales, en particulier la réalisation de vidéoclips. Je considère que ces décisions vont à l'encontre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, qu'elles ne tiennent pas compte de la spécificité du marché francophone et qu'elles pourraient nuire à la production originale canadienne de langue française, a déclaré il y a quelques jours le ministre Fortin dans un communiqué. En réaction à cette sortie du ministre québécois, responsable notamment des affaires francophones, le CRTC s'est défendu de mettre en péril les productions originales francophones, comme le lui a reproché le gouvernement du Québec. Le CRTC avait notamment tenu à préciser que l'abolition des conditions ne concerne que 3 des 29 services et stations dont les licences ont été renouvelées. Le CRTC a soutenu de plus que les exigences d'investissement dans des productions en français avaient été remplacées par d'autres exigences. Alors voilà, si vous vous intéressez à la veille qu'exerce le CRTC sur la production canadienne au pays, c'est dans le fil de la presse canadienne, c'est intitulé « Production en français, le gouvernement québécois ». Quoi demande au CRTC de revoir ses décisions en date du 29 juin. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition du 30 juin du Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM. Merci de demeurer à l'écoute de votre fréquence communautaire francophone locale. Au retour, après cette pause musicale, on va se pencher sur les développements historiques survenus hier en Colombie-Britannique, ici même à Victoria, à l'Assemblée législative de la province. On a un nouveau gouvernement, nous avons un nouveau premier ministre en la personne de John Organ. Je vais avoir le plaisir de m'entretenir au retour avec notre analyste politique Teal Phelps Bondaroff. Nous allons faire le tour des récents développements et faire un petit peu de prospective également, essayer de se projeter un peu dans l'avenir et voir comment pourra gouverner ce gouvernement de coopération entre les néo-démocrates de Colombie-Britannique et le Parti vert d'Andrew Weaver. C'est à suivre. Restez à l'écoute. débrief se poursuit à l'antenne de CILS FM 107,9. On va parler de politique provinciale. Auparavant, je mentionne qu'on écoutait à l'instant une pièce de jazz d'un artiste qui se produit ce soir à Victoria dans le cadre du Jazz Fest 2017. C'était Neil Cowley, une pièce intitulée The City and the Stars. Alors, j'ai le plaisir de retrouver en studio Teal Phelps Bondaroff. Bonjour, Teal.
Bon après-midi.
Teal, tu es notre analyste politique ici dans l'émission Le Débrief. On est bien chanceux de compter sur tes impressions, tes observations à propos de politique provinciale. Alors, chers auditeurs, si vous avez un peu suivi, même de très loin, l'actualité provinciale, vous savez qu'on a un nouveau gouvernement ici en Colombie-Britannique. Le gouvernement très précaire de Christy Clark a été défait lors d'un vote de confiance jeudi 29 juin. Et donc, désormais, nous sommes sortis de l'ère libérale qui a duré 16 ans ici en Colombie-Britannique. Alors, Thiel, on va plonger dans le vif du sujet. Je sais que tu as suivi ça de très près.
Allons-y.
Christy Clark avait promis qu'elle ne demanderait pas à la lieutenante gouverneure générale Judith Guichon de dissoudre l'Assemblée législative de Colombie-Britannique et d'ainsi déclencher de nouvelles élections. C'était une promesse qu'elle avait formulée au lendemain du scrutin du 9 mai. Elle a brisé cette promesse. Pourquoi?
Ben, ça ne valait pas la peine à la fin de la journée. Je pense que c'était un peu drôle. Les derniers jours de la gouvernement de Christy Clark étaient un peu bizarres. C'était un peu d'un rêve gauchiste d'une façon. Un gouvernement qui a presque perdu sa tête. Alors, je dirais que c'était une continuation d'une série de décisions incompréhensibles, un peu probables, oui, qu'elle a fait. Et je sais pas pourquoi elle a fait, parce que à la fin de la journée, ça n'a pas vraiment changé les choses. Alors, ça m'a marré qu'elle a peut-être les personnes qui lui donnent les avertissements,
oui,
qui étaient un peu confus. Mais
est-ce qu'elle pense vraiment que le Parti libéral pourrait gagner une nouvelle élection si une élection était déclenchée demain matin?
Ça, c'est une plus grande question. Je pense que non. Et encore parce que c'est des choses qu'elle a faites pendant les dernières semaines. Et maintenant, elle a coupé encore des ponts avec peut-être la coopération avec les Verts dans le futur. Et de la même façon, elle a coupé les ponts avec ses supporters parce qu'elle a vraiment adopté presque qu'on va parler la semaine prochaine, dernière, à propos du sujet qu'elle a changé. Deux tiers le discours de la trône a été volé, peut-être, des autres partis.
Plagié.
Ouais, c'est ça. Alors, elle a vraiment coupé les ponts avec sa base. Alors, je pense pas qu'elle aura la chance de gagner l'élection. Et en même temps, c'est pas l'abus du lieutenant gouverneur général de demander une élection aussitôt après une élection. Ça, c'est la situation dont elle a besoin, et ce qu'elle a fait, de demander le dirigeant de la partie avec le deuxième plus grand nombre de sièges de tenter de former le gouvernement.
Alors, Judith Guichon a dit non à Christy Clark, et d'autant plus que John Organ avait la confiance de la Chambre, de l'Assemblée. Il est en mesure de former un gouvernement ayant la confiance. Les Lean, dans le Times Colonist, un chroniqueur que tu connais sans doute, a écrit aujourd'hui que Christy Clark avait manqué une occasion de se montrer bonne perdante. Est-ce que Christy Clark est mauvaise perdante?
Je pense qu'on dira que oui. Et aussi, hier, dans la pub, on célébrait un peu le résultat. Et c'est déjà 7 semaines depuis qu'on ne sait pas qui est le premier ministre.
Depuis le 9 mai.
Ouais, mais j'ai parlé avec un gens et j'ai dit, c'est un peu bizarre que nous voyons pas encore le retour des dirigeants des partis. Nous avons le processus maintenant que quand un dirigeant perd une élection, ils quittent leur position et c'est la fin de leur carrière. Mais dans le passé, on avait des temps où les premiers ministres ont été réélus après un temps hors de l'office. Je pense que le dernier était juste le Trudeau Senior. Mais dans les années 1880, il y avait ça c'est un processus qui arrivait beaucoup de temps, mais on voit pas ça encore. Et la question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui arrive avec la situation politique moderne, ou est-ce que c'est quelque chose à propos des dirigeants ou la média, je sais pas, mais Chrissy a vraiment arrêté sa carrière politique. C'est fini.
D'après toi.
Aucune chance de retourner.
D'après toi.
Je pense que après aussi le membre du caucus libéral, on veut pas un dirigeant qui sait pas comment perdre une élection avec de la grâce.
Donc, est-ce que des libéraux influents dans le pool des dans le bassin des députés libéraux vont demander un congrès, un vote pour un nouveau leader?
Je pense qu'ils ont besoin de faire juste pour au moins de reconstruire la croissance de leurs supporters, leurs partisans, parce que maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui supportera des libéraux dans les anciennes élections qui je sais pas ce qu'ils vont faire dans la prochaine élection, parce qu'il dit c'est pas la même parti libéral qu'on a voté, c'est même pas la même parti libéral qu'il y avait 2 semaines. Alors ils ont vraiment changé leur avis.
Mais je crois que Christy Clark prend pour acquis les small C conservatives, les conservateurs par exemple de l'intérieur de la province, de l'est de la Colombie-Britannique, qui n'ont nulle part où aller. Je veux dire, ils ont pas d'autre choix que le Parti libéral. Donc, ils sont captifs de Christy Clark, quelque part.
Mais c'est intéressant parce que maintenant, les NPD, supportés par les Verts, ont promis des réformes électorales. Ils vont introduire un référendum sur le sujet de la réforme électorale pendant les élections municipales en 2018.
Mm-hmm.
Puis après ça, ça va tout changer le système politique. Alors, vous avez dit, les conservateurs, petit C, rien.
Ils sont prisonniers.
Mais maintenant, il peut construire un nouveau parti, ou peut-être donner un peu de vie à la parti conservateur ici en Colombie-Britannique. Et ça va tout changer l'écosystème politique de Colombie-Britannique. Peut-être, je pense, pour le mieux, parce que ça va changer le discours et donner des voix à des personnes dans le parti libéral qui n'a même pas les voix maintenant. Comme les conservateurs ou comme les anciens social credit. Ils ont pas vraiment un bon voile là maintenant, et alors ils peuvent construire leur propre parti encore.
D'accord, ok. Donc on va voir des conséquences vraiment très concrètes de l'instauration d'un scrutin proportionnel si effectivement le nouveau gouvernement arrive à l'instaurer. On verra.
C'est ça.
John Horgan a déclaré qu'il allait travailler lundi. Et lundi, c'est férié au Canada et en Colombie-Britannique. Personne ne travaille. Il a dit qu'il allait travailler. Selon toi, qu'est-ce qu'il va faire lundi, John Horgan?
Ben, il y a beaucoup de choses à faire dans un nouveau gouvernement. Et beaucoup de personnes regardent à la première 100 journées de le gouvernement pour vraiment regarder si ça fonctionne et pour extrapoler la performance dans les autres années dans le futur. Et c'est très important à faire maintenant parce que nous avons un gouvernement minoritaire. Alors, les décisions pour John à faire, c'est de désigner les membres des exécutifs, des membres des ministres, puis les choses à faire comme additionner la peinture à son fils, ça, mais il y a beaucoup de choses à faire comme avec la communication, la politique, et toutes les choses vont prendre un peu plus de temps parce que nous avons besoin d'avoir des discussions entre les Verts et les NPD juste pour assurer que c'est pour les choses avec l'accord de coopération entre les partis. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et devrait travailler très fort et commencer lundi, c'est une bonne idée.
Tu mentionnais que John Horgan va composer son cabinet. Qui sont les députés susceptibles d'être nommés ministres?
Ben,
tu les connais bien.
C'est toujours difficile de faire des spéculations. Et il y a encore la question qui va être le président de la Chambre, parce qu'on a besoin encore maintenant un président. C'est une autre question qu'on va discuter, j'espère. Il y a quelques de personnages prominents dans la partie, comme Rob Fleming, qui a travaillé très fort comme ministre de critique de l'éducation. Lana Popham travaille dans l'agriculture, juste pour nommer quelques-uns.
Adrian Dix.
Ouais, Adrian Dix.
Il parle très bien français en passant.
Ah, vraiment? Je savais pas ça. Excellent. Oui. Alors, il y a des différentes positions, peut-être financières.
Mike Farnsworth.
Ouais, David Eby est un autre nom. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de d'expérience dans le cabinet et le caucus d'NPD. Alors, c'est une bonne décision. Et aussi, la question qu'on devrait demander, qui va être le ministre de la Santé mentale? Parce qu'un grand promis de l'NPD pendant l'élection, et aussi un promis volé par M. Clark dans les dernières journées de sa gouvernement, c'était de construire un ministre de santé mentale.
Oui.
Alors, moi, c'est une nouvelle chose. Donc,
c'est un nouveau ministère.
C'est ça. Alors, il y avait pas une critique dans ce cas, alors ça va être intéressant de voir ce qui va être, mais je serais très surpris si les grands noms avec beaucoup d'expérience dans le parti ne reçoivent pas des positions exécutives.
Est-ce que les élus du Parti vert souhaitent être nommés à des postes de ministre, selon toi?
Non, c'est pas l'expectation, parce que c'est un accord de coopération, ça sera pas le cas, ça sera pas approprié, parce qu'ils ne sont pas dans le même caucus du parti, alors
ils sont d'accord avec ça.
Et quelqu'un a demandé à Monsieur River sur Twitter hier.
Oui.
Il a dit merci, mais c'est pas mon but. Je suis pas dans le parti NPD. C'est pas mon rôle d'entrer dans une position exécutive. Alors, je pense pas que c'est une expectation des membres, des députés de la Parti verte.
D'accord. Quels seront les premiers projets de loi soumis à l'Assemblée législative de Colombie-Britannique?
On a déjà mentionné quelques-uns, et pour les écouteurs, s'ils veulent voir quelques-unes des décisions, ils peuvent regarder le document d'accord entre les Verts et NPD, parce qu'ils ont vraiment négocié les différentes choses qu'ils vont introduire.
Réforme électorale?
La réforme électorale, parce qu'on a besoin de travailler très vite sur ça, parce que si on veut un référendum dans 2008, c'est un an, quelques mois. Alors, on a besoin de travailler vite sur ça. Et aussi, c'est pas seulement la réforme électorale de la façon de scrutin. Il y a aussi des choses comme la finance électorale, limiter les dons électoraux, et même les choses qui ont été présentées par les NPD dans la plateforme, qui incluent enregistrer les personnes pour voter. Pas ne laisser voter, mais enregistrer les personnes à voter à 16 ans. Placer dans les rôles de vote en avant.
Est-ce que c'est constitutionnel, ça, voter?
Non, c'est pas laisser les gens voter à 16 ans, mais enregistrer pour voter. Parce que le grand problème avec les étudiants, c'est après l'école secondaire, ils quittent pour l'université, ils quittent la maison, et ils bougent souvent.
Oui.
C'est très cher ici de vivre dans la Colombie-Britannique, alors ils bougent souvent. Il y a souvent pas l'opportunité d'enregistrer de voter.
D'accord.
Alors, c'est une façon, donc, pour enregistrer les gens à 16 ans, c'est une façon de les assurer qu'ils ont l'opportunité de voter.
D'accord. Réforme du scrutin. On peut penser aussi à la crise des opioïdes, la crise des surdoses, qui a plongé la province dans une crise sanitaire très importante. On est au rythme de plus de 120 décès par mois, je crois, actuellement, 4 personnes par jour. C'est très inquiétant. Les pipelines, Kinder Morgan.
Le barrage site C encore, c'est une autre question. Ça, c'est les questions.
Donc, on va voir des projets législatifs à propos de tous ces sujets-là dans les prochains mois.
Je pense que oui, parce que c'était tous les sujets qui ont été, dont les Verts et les NPD ont été en accord. Aussi les soins des enfants, c'est notre sujet. Et je pense qu'après beaucoup de négociations, on va voir les autres choses, parce que, comme vous avez dit, il y avait 16 ans de gouvernement de libéraux, éducation, c'est une question dont on peut vraiment examiner profondément, et changer de relation avec le gouvernement et les enseignants. Mais on va voir beaucoup de changements, et j'espère que ça va arriver rapidement, sûrement avec la question de l'éducation, parce que les étudiants retournent à l'école à septembre, alors j'espère que on va régler les choses un peu avant de ça.
D'accord. Donc tu penses par exemple à la taille des classes et à du financement, entre autres.
Ouais, il y a des autres questions aussi, mais ça, c'est des grandes questions. Ouais.
D'accord. Alors, venons-en à la question du président. Dans cette chambre qui est pas très loin d'ici, pas très loin des studios, on a 43-43-1. Alors, 43 néo-démocrates et verts d'Andrew Weaver, et 43 libéraux. Donc, c'est l'égalité. Et au milieu de l'Assemblée, il y a le président qui préside et qui peut briser cette égalité et voter dans un sens ou dans l'autre. Alors, qu'adviendra-t-il dans cette chambre un peu spéciale? Est-ce que le président va toujours voter avec le groupe de coopération formé par les Verts et les néo-démocrates?
Presque souvent, mais pas toujours, c'est le rôle du président. La convention, c'est le rôle du président, c'est de toujours voter pour supporter le gouvernement et pour arrêter le closure. Alors, je pense qu'il y a une des situations où le président peut voter contre la coalition, pas sur la question de confiance, mais pour la question de closure, pour arrêter le débat. Mais c'est le rôle du président pour briser les égalités en faveur de la stabilité et en faveur de la gouvernement et en faveur de continuer le débat. Alors, selon moi, on va voir peut-être le président va briser les égalités un peu plus souvent que les autres oui. temps.
Par exemple, Kinder Morgan, un projet de loi qui ça. Vise à contrer un petit peu, même si c'est de juridiction fédérale, peut-être que ils voudront amener une loi, un projet de loi qui va ralentir ou empêcher le projet 43-43-1. Est-ce que le président va pouvoir voter avec les Verts et les néo-démocrates dans un sujet aussi délicat et controversé?
Oui, je pense que oui. Je pense pas qu'il y a de grands problèmes avec ça. C'est juste parce que c'est la continuation du débat, c'est supporter le gouvernement et c'est une bonne pièce de législation, une pièce de législation importante pour le gouvernement. Alors, je pense que ça fera le sens. À la fin de la journée, c'est problématique quand le président vote pour faire des grands changements, mais à la fin de la journée, voter contre une pièce de législation d'un gouvernement est un grand changement aussi. Alors,
oui.
On va voir qui est le président.
Oui.
Je sais pas encore.
Il y a encore un point d'interrogation par rapport à ça. Justin Trudeau a déclaré qu'il était impatient de travailler avec les néo-démocrates et le Parti vert d'Andrew Weaver. Alors, est-ce que c'est la langue de bois ou est-ce qu'il est sincère, selon toi?
Moi, je pense pas que Monsieur Trudeau est jamais sincère. Il a une bonne réputation de mentir au peuple canadien. Je pense que c'est son but politique de communiquer avec le nouveau gouvernement de Colombie-Britannique, c'est de peut-être pas perdre tous ses sièges en Colombie-Britannique dans la prochaine élection. Je pense qu'il va perdre les sièges ici parce que les personnes en Colombie-Britannique veulent pas les oléoducs. Un. Et deux, il a vraiment brisé le cœur des gens avec ses changements d'avis avec la réforme électorale. Et selon moi, il peut dire ce qu'il veut, mais j'ai beaucoup de confiance dans Justin Trudeau. Alors, son but en parler avec le premier ministre Horgan, c'est d'essayer d'arrêter le parti NPD de vraiment rendre les choses difficiles avec les projets d'oléoduc. Mais on a aussi un gouvernement NPD supporté par les Verts qui vont essayer d'arrêter les projets. Alors, ça va être une situation un peu intéressante.
Avec la pression de l'Alberta, en plus.
Ouais, c'est ça. Deux gouvernements NPD à côté de chacun, négocier les projets d'infrastructure.
Ils sont très différents, finalement. Ok. C'est ça. Intéressant. Dans le portail Ricochet, à l'adresse ricochet.media, côté anglophone de ce portail anglo et franco, on a un article intitulé « BC can help point the way to a democratic eco-socialist future ». La Colombie-Britannique peut montrer la voie vers un écosocialisme d'avenir. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation?
Vous avez dit, ça pointe la direction, oui.
Oui.
Si on va arriver à sa but, je pense, je suis un peu plus pessimiste avec les situations, mais on voit peut-être des différents changements autour de la monde qui suggèrent ça aussi. Par exemple, le parti, je sais pas le nom exactement, mais Left Green, dans les Pays-Bas,
oui.
a gagné beaucoup de sièges dans l'élection, et dont différents pays autour d'Europe ont peut-être des mouvements verts qui ont
oui.
beaucoup de pouvoir. En Allemagne, nous avons beaucoup, il y avait un parti vert là-bas qui était là.
Vert depuis, social.
Ouais,
vert
il était là
de
depuis
gauche.
Les années 60. Oui. Le parti vert d'Australie, qui était en bas de pouvoir de Bob Brown, il n'est pas là maintenant, était très gauche socialiste, éco-socialiste. Mm-hmm. Selon moi, la vision de supporter l'égalité des gens et de protéger l'environnement sont des concepts qui sont
compatibles.
Oui, exactement. Ils vont ensemble.
Est-ce
parce que
t'as... oui.
Oh, parce que quand nous avons une situation où il n'y a pas beaucoup d'égalité,
mm-hmm.
on a des problèmes de l'environnement. Et c'est des grandes situations où 1% de la population a presque 89% d'argent.
Oui.
Sont des situations où l'environnement est vraiment endommagé. Alors, c'est une bonne solution. Ce qu'on devrait considérer. On va voir si le public autour de l'Afrique du Nord veut vraiment
oui.
un changement. Colombie-Britannique, c'est vraiment le peuple de Colombie-Britannique. C'est pas tout le même. Les personnes autour de Canada sont pas tout le même.
Non, c'est sûr.
Alors,
c'est
on
sûr.
Voit, et maintenant aussi, dans les États-Unis, on voit, le processus politique va dans l'autre direction.
Malheureusement. Alors, ouais. Est-ce que tu as l'un des discours qui m'a touché hier durant le marathon parlementaire, c'était le discours inaugural de Sonia Firstenau, qui a rappelé les mensonges du gouvernement libéral, notamment en matière d'environnement. Sonia Firstenau vient de la région de Cowichan Lake. Elle a parlé du grand scandale de pollution des eaux. Auquel a été confrontée la population de Cowichan Valley. Et c'est une des raisons qui l'ont fait élire, ce scandale. J'ai trouvé son discours fort intéressant. Et bon, on verra, comme tu dis, quel genre de chimie pourront créer le Parti néo-démocrate et le Parti vert. On va voir si les verts ont une sensibilité sociale véritable et si les néo-démocrates sont éco-sensibles, environnementalistes, suffisamment au goût des verts. Donc, c'est à suivre. Est-ce que tu peux me donner quelques notes en terminant, ton sentiment pour les prochaines semaines?
Ben, pour retourner à le point, écoutez le discours de Christy Clark, sa dernière discours dans la maison comme première ministre hier. Elle a vraiment coupé des ponts avec le Parti vert.
Oui.
Les deux parlent en avant d'elle, le ministre de l'Éducation. Il parlait de...
Très amer. Très bitter.
Ouais.
Hein, très
amer. C'est intéressant parce que le ministre de l'Environnement, Bernier, il parlait et on avait l'impression qu'il encore tentait de gagner les votes de la Parti verte.
Ouais.
Et ça m'a, il y avait un moment où j'étais comme, oh mon Dieu,
beaucoup
peut-être
de rancune aussi.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais ouais. Christy a parlé et elle a dit des choses un peu problématiques envers la Parti verte. Alors, selon moi, ça suggère une situation où elle a la difficulté de percevoir comment on va changer le système politique d'économie britannique avec le nouveau gouvernement. Quand nous avons la réforme électorale, ça change le discours.
Oui.
Et je pense que Christy avait eu la difficulté à vraiment percevoir comment ça va changer et d'adapter sa discours pour accommoder la nouvelle situation. Mais vous avez dit des derniers jours, ben, je pense que tout le monde va célébrer demain pour le jour du Canada.
Oui.
Et puis après ça, on va avoir beaucoup de nouveaux démocrates dans le caucus qui dorment pas souvent, qui travaillent très fort pour introduire les grands changements.
C'est bon pour la démocratie.
Ouais, et c'est intéressant de voir quand il va rappeler la maison pour voter sur les choses. Je pense octobre, ça c'est raisonnable.
Oui. Alors on aura plus de